Bonsoir camarades, bonsoir à tous. Notre groupe milite depuis 1971 en Martinique et en Guadeloupe. Ces deux îles furent très longtemps des colonies françaises, puis en 1946, elles eurent le statut de département français, sur le papier. Car pendant encore un demi-siècle, elles durent subir l'oppression coloniale directe avant l'obtention d'une relative égalité sociale et reconnaissance de liberté démocratique. Cependant, 72 années de départementalisation évolutive n'effacent toujours pas trois siècles d'esclavage et de colonialisme. Nous sommes un groupe trotskiste, membre de l'UCI, Union communiste internationaliste, avec plusieurs autres organisations, dont Lutte ouvrière. Nous sommes aujourd'hui toujours un petit groupe dans ces deux petites îles des Antilles, mais nous avons été confrontés à une situation qui rappelle toute une série de situations qui ont existé dans d'autres pays pauvres, colonisés, semi-colonisés, où se sont posés des problèmes d'émancipation de l'oppression coloniale, impérialiste et raciale. L'échelle des pays n'exclut pas similitudes, analogies et comparaisons. Après notre fondation en 1965 à Paris, nous avons immédiatement milité en direction des travailleurs antillais de l'émigration d'abord. Dans le même temps, nous avons été confrontés aux idées nationalistes en vogue à l'époque, portées par des organisations nationalistes qui irradiaient alors les milieux de la jeunesse étudiante et même ceux des jeunes travailleurs politisés. C'était un mélange de maoïsme, de castrisme, de guévarisme, de négritude, d'idées venant du FLN algérien victorieux de sa guerre contre le colonialisme français, d'idées venant des nationalistes vietnamiens en pleine guerre alors contre les USA, après la guerre victorieuse contre le colonialisme français. Et tout cela arrosé d'une pincée de marxisme. Aux Antilles, en pleine période colonialiste, à une époque où les forces de l'ordre tiraient à vue sur les travailleurs en lutte, où la misère était comparable à celle qui existe encore, par exemple, en Afrique, les partis communistes staliniens avaient pris depuis longtemps un cours nationaliste. Au début des années 60, on vit apparaître des organisations nationalistes plus actives, prônant l'autonomie ou l'indépendance nationale par rapport à la France. En 1963, il y eut entre autres le GONG, groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, et l'OJAM, organisation de la jeunesse anticolonialiste de Martinique. Elles étaient relayées par les organisations étudiantes. Toutes ces organisations et partis mettaient en avant ce qu'ils appelaient la libération nationale, en reléguant la place de la classe ouvrière et des pauvres à ce qu'ils appelaient une deuxième étape. Après la libération nationale, cette deuxième étape qui devait être socialiste n'était en réalité qu'un futur hypothétique. En fait, ce que veulent les nationalistes, c'est l'avènement d'un État martiniquais ou guadeloupéen avec la petite bourgeoisie et la bourgeoisie au pouvoir. Quant à la classe ouvrière, quant aux classes pauvres, le rôle qui leur est dévolu, c'est d'accepter de construire l'État guadeloupéen et martiniquais en faisant tous les sacrifices qu'il faut au nom de la patrie guadeloupéenne et martiniquaise. En fin de compte, un rôle de piétaille pour les intérêts de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie locale. C'est ce que les nationalistes, tout comme en Chine ou au Vietnam, appelaient à l'époque la Révolution nationale démocratique et populaire, la RNDP. C'était l'alliance des quatre classes qu'avait prônée Mao en Chine, c'est-à-dire l'alliance de la paysannerie avec la classe ouvrière, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. Ce programme suscitait bien des illusions chez les travailleurs et dans la jeunesse politisée, alors qu'en fait, il était mis en avant pour forger une nation bourgeoise indépendante de l'impérialisme français, pas pour faire triompher les intérêts des travailleurs et des pauvres. Aux Antilles, certains groupes indépendantistes, compte tenu de la fréquence et de la force des luttes ouvrières, ont choisi à partir des années 70 de se fondre dans la classe ouvrière et de créer des syndicats. Ils cherchent à utiliser les luttes ouvrières et susciter une agitation sociale et politique telle qui les mettrait en position de négocier avec Paris une forme d'indépendance. Ils n'y sont pas parvenus jusqu'ici, car les travailleurs ne les suivent pas sur ce terrain-là, quand bien même, par exemple, l'un de ces syndicats nationalistes demeure le syndicat majoritaire en Guadeloupe. Il s'agit de l'UGTG, Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. Pour notre groupe, il a fallu, dès notre création, évidemment dénoncer le colonialisme, ses crimes et ses massacres, et lutter pour l'émancipation des peuples de Martinique et de Guadeloupe de l'oppression coloniale, mais il fallait mettre les intérêts des travailleurs et des pauvres en priorité dans ce combat-là. Dans notre manifeste de 1965, nous disions, je cite, « Depuis trois siècles, notre pays est sous la domination directe et sanguinaire de l'impérialisme français. Depuis trois siècles, nous sommes colonisés, vassalisés, notre développement économique est paralysé par la pression de l'industrie française, notre culture nationale est anéantie et la citoyenneté française que l'on nous offre depuis 1946 ne sert en fait qu'à sucer notre sang. Cette citoyenneté n'est que du prix et ne fait que masquer l'appauvrissement de plus en plus grand de notre population au profit de l'impérialisme français. Dans cette lutte, nous n'aurons pas à nous opposer seulement aux sbires et aux mercenaires de l'impérialisme. Nous n'aurons pas seulement à vaincre nos propres hésitations. Nous aurons aussi à combattre ceux qui, dans notre propre sein, se voient déjà les profiteurs, les dirigeants autochtones des Antilles indépendantes. Notre lutte pour l'indépendance, c'est la lutte des classes pauvres, de la population pour une vie meilleure. Ce n'est pas la lutte pour que les bourgeois antillais puissent profiter de leur commerce sans craindre la concurrence impérialiste, pour que quelques médecins, avocats ou autres élites se retrouvent plus tard nantis de postes et de sinécures en nous prêchant le travail, la patience et l'espoir. Fin de citation. Une quinzaine d'années plus tard, on assista aux Antilles à un regain d'activisme nationaliste. Des groupes indépendantistes s'étaient donné pour but de contraindre par des attentats à la bombe le gouvernement français à négocier l'indépendance des Antilles. Il y eut en tout près d'une dizaine d'années d'activisme nationaliste de ce genre, de fin 1979 à juillet 1989. Notre groupe, en cette période, a donc dû faire face à cette situation nouvelle et inédite pour nous. Nous avons dû trouver l'activité et les mots d'ordre adéquats dans cette situation nouvelle à laquelle nous étions confrontés directement et trouver une politique conforme aux intérêts des travailleurs dans la lutte contre l'impérialisme français dans une période où l'activisme des groupes nationalistes, s'il ne rencontrait pas d'adhésion formelle de la population, suscitait quand même une certaine sympathie en son sein. Nous avions déjà évalué le fait que la population exprimait, comme elle exprime encore, plus un sentiment d'oppression raciale qu'un sentiment nationaliste d'indépendance politique. Ce sentiment issu de la société esclavagiste et de l'économie de plantation s'explique du fait que tout est dirigé et contrôlé par une minorité de blancs dans des îles où existe une majorité de noirs. Alors, par rapport aux nationalistes qui revendiquaient un État indépendant, nous avons alors mis en avant le slogan suivant « Pour un État des noirs pauvres, indépendant des blancs et des riches ». « D'un autre côté, face aux attentats individuels des nationalistes, nous avons soutenu dans notre presse des groupes radicaux clandestins passés à l'action, mais d'une autre façon, en tentant d'y impliquer la jeunesse des quartiers et des travailleurs. Ce fut le cas, par exemple, de notre soutien aux actions du Comité contre le génocide par substitution, qui mena des actions dures, violentes, contre les symboles de l'oppression raciale dans les quartiers habités par des Blancs et contre leurs biens dans ces quartiers et dans les villes. Alors, oui, l'une des tâches des révolutionnaires communistes, des trotskistes, est d'abord de comprendre et ensuite de tenir compte du sentiment des masses opprimées. C'est le programme des quatre premiers congrès de l'Internationale communiste et le programme trotskiste qui nous ont permis de chercher, puis de comprendre en marxiste, le sentiment des masses en général, celui des masses des pays dominés et celui des masses noires et de couleur de nos pays. En particulier, les thèses sur la question nationale et coloniale et la thèse sur la question nègre des quatre premiers congrès de l'Internationale communiste dirigé alors par Lénine et Trotsky nous ont fourni l'orientation juste. Plus tard, en exil, lors d'une discussion sur les Noirs américains avec des militants américains, Léon Trotsky a déclaré, je cite, « La question de la religion n'a absolument rien à voir avec la question de la nation. Le baptisme d'un Noir est quelque chose de totalement différent du baptisme d'un Rockefeller. Ce sont deux religions différentes. » Fin de citation. De la même façon, les sentiments d'oppression d'un travailleur antillais noir ou de couleur envers son patron blanc est différent du sentiment d'oppression que peut ressentir un médecin, un avocat, un chef administratif noir ou indien à l'égard de l'administration blanche et des séquelles coloniales et raciales. Ce sont deux oppressions différentes, mais cette fois chez les Noirs eux-mêmes. D'ailleurs, fin de citation, enfin je l'ai déjà fini avant, hein, bon. D'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons déjà vérifier dans les faits, c'est qu'une fraction des notables nationalistes est parvenue à obtenir un ersatz de pouvoir local en Martinique, et ce sera le cas bientôt en Guadeloupe, avec une assemblée unique remplaçant le Conseil général et le Conseil régional. On est bien loin de l'indépendance et même de l'autonomie. Mais cette petite miette de pouvoir local suffit déjà aux notables locaux pour le moment. Ils contrôlent en partie le produit des impôts et taxes payés par la population, ainsi que les crédits alloués par le gouvernement français et l'Europe, sans contrôle populaire, et s'en servent comme moyen de pression sur la population. Dans toutes les îles environnantes, c'est le même type de notable que l'on retrouve à la tête des États indépendants de la Caraïbe. Notre existence et notre personnalité politique ont été forgées dans la lutte contre le programme et les attaques nationalistes et dans notre activité militante dans la classe ouvrière. Notre groupe a une expérience des luttes ouvrières, celle menée par nos camarades dans les entreprises et dans les syndicats. Tout cela nous donne la possibilité, dans les périodes de fièvre sociale ou de montée de l'activisme nationaliste, d'exprimer la position communiste, trotskiste, même en restant minoritaire. Et c'est la formation trotskiste qui nous a permis de trouver les réponses les plus justes lors de ces situations-là, d'apporter des réponses de classe, des réponses communistes dans la lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, parmi les travailleurs, au sein de la population et de la jeunesse prolétarienne et étudiante. Bien sûr, l'expérience des luttes n'est pas l'expérience révolutionnaire. Celle-là, nous ne l'avons pas. Mais le programme révolutionnaire, nous l'avons. C'est celui de Lénine et de Trotsky. J'ajouterai que dans notre zone géographique, l'histoire originelle des Noirs et des Indiens de la Caraïbe est la même. Le capitalisme exploite des millions de Noirs pauvres dans tout l'arc caraïbe, de Margarita, qui est une île qui se trouve au large du Venezuela, aux Bahamas. Et là, on passe par Haïti, où existe une organisation sœur, l'OTR, l'Organisation des travailleurs révolutionnaires, qui milite sur le même programme que le nôtre au sein d'une classe ouvrière bien plus nombreuse et différenciée. L'exploitation impérialiste, la pauvreté, ont fait de ces îles des brûlots sociaux. Là réside une force potentielle révolutionnaire considérable des travailleurs et des pauvres qui explosera un jour. Et le virus révolutionnaire est contagieux. Le problème n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Mais bien sûr, il faut que les travailleurs se donnent des partis communistes révolutionnaires, condition indispensable pour le succès des révolutions ouvrières futures. Pour terminer, camarades, je dirais qu'aujourd'hui aux Antilles, comme ici en Europe, comme aux USA et ailleurs, tout semble aller en sens contraire de ce que nous voulons. Mais c'est précisément pour cette raison que notre existence même dans de petits pays, et quelle que soit notre force numérique, est importante. Elle est un des maillons des futurs partis révolutionnaires et de la révolution ouvrière, quel que soit le chemin que prendra cette construction et cette nouvelle période historique. Merci, camarades, de votre attention.